Militante, un podcast sur l'engagement et ses effets au quotidien et sur toute une vie. Combat féministe, antiraciste, communiste, anarchiste, autour du travail, du genre, de la terre, des frontières ou encore de l'art, comment ces luttes bouleversent les vies de celles qui s'y consacrent. Un moment d'écoute, de vie, qui conjugue itinéraire politique et personnel, pendant lequel nous, Fanny Gallo et Johanna Bourgo-Hipsmann, vous proposons aussi de prêter l'oreille aux à-côté, aux questions intimes et pratiques. Ce deuxième épisode est consacré à Marie-Paule Lambert, paysanne. Militante de la Jeunesse agricole catholique féminine, la JAC, dans les années 1950, elle participe au mouvement de mai-juin 1968 à Nantes avant de s'engager dans le mouvement des paysans travailleurs qui articule paysannerie et lutte de classe et d'être journaliste pour son périodique Vent d'Ouest à la fin des années 1970. Marie-Paule est née dans le Gers en 1934. Elle rencontre Bernard Lambert à la JAC. Elle déménage alors avec lui en Loire-Atlantique, où elle s'installe avec bientôt 4 enfants et s'occupe entre autres d'un poulailler. Son parcours permet d'appréhender la place des femmes dans différents mouvements et les tensions existantes entre une vie de mère, de paysanne et de militante. Fanny Gallo la rencontre chez elle à Toulouse, où elle a déménagé au moment de sa retraite en compagnie de son amie Marie-Françoise Vabre.
C'était la cohabitation à l'époque. Ouais. Quand on se mariait, on allait dans la famille du mari et tu vivais avec toute la famille, que ça te convienne ou pas. Et c'est ce qui est arrivé à mon père, enfin à ma mère surtout, puisqu'elle est allée chez mon père. Et j'avais une grand-mère qui était un peu acariâtre et pas très sympa. Donc elle n'a pas pu s'entendre avec. Elle a fait une fausse couche. Une première fois, quand ça a menacé la deuxième, pour qu'elle était enceinte, le toubib est arrivé. Le toubib, à l'époque, c'était comme de la famille, il donnait les conseils. Il a pris mon père à part, il a dit, si tu veux des gosses, t'as pas besoin de laisser ta femme là. Donc, il a pris les mesures nécessaires, il a amené sa femme chez les parents de ma mère. Et c'est vrai, si tu veux, que les femmes qui arrivaient dans la famille du mari, des fois, elles n'avaient pas de responsabilité jusqu'à un âge très avancé. Des fois, avec y compris des difficultés à élever leurs enfants comme elles voulaient, parce que les grands-parents remettaient la main dessus des fois aussi, tu vois. Donc, c'était... pour moi, ce n'était pas le cas, mais c'est des choses qui se produisaient aussi, ça.
Donc, il y a eu, c'est aussi pour ça qu'il y a eu un énorme enjeu à mettre en place la décohabitation.
Oui.
Ça s'est fait progressivement dans les années 60-70.
Oui, ça s'est fait, oui. Oui. Mais c'est-à-dire que ça s'est fait quand, avec les. Il n'y avait pas que la relation, il y avait aussi le statut des paysans qui était ou fermier ou et souvent les de toute façon si les parents étaient propriétaires, donc bon, tu vois, c'était toujours difficile de dire aux anciens, vous maintenant vous dégagez. À partir du moment où il y a eu une retraite, où ils ont pu être autonome avec une retraite, les choses ont été plus simples aussi. Je pense que c'est à partir de là aussi que ça a marché. Et je travaillais chez mes parents comme pas mal de jeunes de cette époque, parce que 14 ans, c'était la limite des études. Donc, après, on travaillait et fonction. Les filles se mariaient, c'était le grand truc, ça. Les mecs reprenaient l'exploitation des parents, souvent. Et puis, mais moi, je suis donc restée chez mes parents. Et j'avais été... ce qui m'a marqué, disons, le point de départ, c'est que j'écoutais une émission à la radio, et c'était les jeunes de la JAC qui affirmaient qu'ils étaient fiers d'être paysans. C'était la première fois que j'entendais ça et je trouvais ça intéressant. Donc c'est ça qui m'avait un peu amené à voir ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient. Donc voilà, mais bon, après il y a eu bien d'autres trucs, mais c'était, mon engagement a été surtout donc JAC, après Centre des jeunes agriculteurs, syndicat, donc, qui était à l'époque plus contestataire qu'il ne l'a été après, et c'était intéressant, quoi, comme approche syndicale. Bon, voilà pour le départ. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après? Je me suis trouvée engagée donc au niveau du département, puis au niveau de la région. On n'était pas, il n'y avait pas d'élection, on sortait du rang d'une manière ou d'une autre, et on nous proposait pour avoir une responsabilité. Si on acceptait, on allait plus loin, et puis c'était le fonctionnement de l'époque. Voilà, en gros.
Alors ça, c'était au centre des jeunes agriculteurs, mais oui. Est-ce qu'on pourrait du coup remonter un peu en arrière,
oui.
Et sur la JAC, c'est à peu près à quel moment que tu t'es engagée dans la JAC ?
JAC, c'était j'avais 16-17 ans, 1960, ça faisait partie, c'est là que j'ai rencontré aussi, mais c'était à la fois la JAC et à cette époque-là, le centre des jeunes agriculteurs était un petit peu le prolongement de l'engagement JAC, quoi, pour beaucoup de gens de cette époque. Notamment, moi, c'était ça. Bernard, ça a été ça aussi. Donc, c'était dans les années 60, quoi.
Mais du coup, toi, tu étais plutôt à la JACF.
Oui, absolument. Oui, il y avait JACF et JAC, oui, bien sûr. C'est pareil.
Et du coup, comment c'était la JACF?
C'était un gros comme la JAC, tu avais des responsables, au niveau du canton, au niveau du département, et ensuite au niveau de la région, et au niveau national après. Et je me suis retrouvée ils avaient organisé un stage de formation de 3 semaines, je crois, qui était sur une commune, et on avait pris des contacts avec la municipalité, les organisations de la commune, etc. On avait fait le tour un peu de genre d'enquête, quoi, sur la commune. Et j'avais participé à ça, et donc après, ils m'ont forcément ramené et récupéré pour que je sois responsable au niveau départemental. Et du département, je suis passée au national. Voilà, j'ai été responsable de professionnel au départ, c'est-à-dire comment les femmes pouvaient travailler, les filles pouvaient développer leurs activités au niveau d'une exploitation familiale. J'avais été la recherche qui était faite à ce moment-là. Et de là, parce que j'ai dû faire un article qui avait plu à quelques responsables, je me suis retrouvée repropulsée dans la presse, responsable presse. Donc il y avait un journal qui s'appelait Promesse à l'époque, et donc j'ai travaillé dans ce journal pendant 3 ans, je crois.
D'accord. Et du coup, tu te souviens cette enquête? Parce que du coup, effectivement, la JSF, la JAC faisait aussi un certain nombre d'enquêtes. Pour aussi saisir un peu ce qui se passait dans le monde rural.
C'est ça, c'était ça, oui.
Jeunes, mais
oui.
Tu te souviens sur quoi elle portait l'enquête?
Elle portait sur l'organisation d'une commune, au niveau du conseil, des engagés municipaux que syndicaux ou autres, quoi. Tu vois, je pense que c'était sur ce... C'était surtout syndical et municipal.
D'accord. Et tu te souviens de l'ambiance à la JACF? Comment c'était, en fait
C'était assez...
Avec les autres militantes
C'était assez, comment dire, pas festif, c'est peut-être trop dire, mais il y avait quand même les soirées, des soirées avec... on apprenait des chants, des danses, des choses comme ça, et c'était assez sympa, quoi, voilà.
Et le voir juger agir, ça t'a marqué?
Oui, c'est après que c'est arrivé. Plus c'était pas sur cette partie-là. On abordait pas là directement le voir juger agir. On le faisait plutôt après.
J'ai l'impression que c'était aussi ce qui permettait de, enfin, ce qui était l'idée qui présidait à la réalisation des enquêtes, parce que
oui, oui,
il
c'est ça.
De
oui,
mener
c'est...
des
oui,
enquêtes
tout
pour
à fait.
Voir,
oui,
ensuite
oui.
On discutait ensemble et
absolument.
On se positionnait
oui,
et ensuite
oui.
On agissait.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait, c'est ça.
Dans ses écrits personnels à destination de ses enfants, Marie-Paule aborde son implication à la JACF, la Jeunesse Agricole Catholique Féminine. Donc je la cite. En 1950, les jeunes de la JAC-JACF ont organisé un grand rassemblement à Paris. 100 000 jeunes ruraux se sont répandus dans les rues de la capitale et durant 3 jours ont investi le Parc des Princes où se sont succédés célébrations liturgiques, mouvements d'ensemble, spectacles, chants, sketchs et débats. La radio s'est largement faite l'écho de cet événement. Les jeunes parlaient de leur fierté d'être ruraux et l'enthousiasme qui accompagnait les commentaires des journalistes me donnait envie de partager ce que vivaient ces jeunes. Les bouseux que nous étions pour les citadins étaient capables de faire des choses qui épataient même les Parisiens. Le succès fut tel que l'année d'après, ils ont organisé des rassemblements régionaux. Celui de notre région était à Lourdes. Nous y sommes allés avec André, mon frère. Papa nous encourageait. Maman était plus réticente. Voyage, réunion après le voyage pour en reparler et bien sûr, suite à donner. Et me voilà embarquée. Il y avait peu d'effectifs et peu de volontaires pour prendre des responsabilités. On m'a bombardée responsable pour le canton. J'avais 17 ans, j'étais timide et je me rappelle l'angoisse devant une porte. Je devais faire une démarche et la chose n'était pas facile. Il y avait des camps d'une semaine dans les Pyrénées. J'y suis allée. Il y avait des débats, on apprenait des danses, des chants, le soir on se retrouvait autour d'un feu de camp. J'ai eu des responsabilités départementales, mais j'étais persuadée qu'on me demandait parce qu'il n'y avait personne pour prendre la place. J'avais de gros doutes sur mes capacités à mener à bien ce qu'on attendait de moi. Les équipes départementales se retrouvaient à la région, donc à Toulouse, et de fil en aiguille, nous sommes arrivés en 1956. Des stages de culture générale étaient organisés sur 3 semaines. Nous étions 15-20 dans un village. On faisait des enquêtes, on étudiait les structures de la commune. J'avais décidé d'y aller. Maman refusait, papa m'a soutenue et je suis partie avec 3 jours de retard. Et en plus, le train est arrivé trop tard pour la correspondance en raison d'un arrêt prolongé. J'ai pris le suivant. À ce stage, on m'a proposé de venir au secrétariat national pour travailler à la commission professionnelle. L'opportunité m'a paru intéressante. André, mon frère, allait revenir de l'armée. Odile, ma sœur, avait 18 ans. Yves, 15. Ma présence était moins nécessaire à la marche de l'exploitation. J'ai accepté. J'avais 22 ans, et si mes parents ont appris ma décision avec une certaine réserve, ils ne s'y sont pas opposés. Je suis donc montée à Paris en février 1957. Et c'est là que mon aventure avec Bernard a commencé. Mon travail au secrétariat s'est modifié. Chargée d'un article sur la comptabilité, on m'a demandé de travailler en tandem avec Geneviève Bailly au journal Promesse. J'ai accompagné plusieurs reportages. Il y avait une équipe de techniciennes pour la rédaction et la fabrication du magazine et notre boulot, Geneviève et moi, était de faire le lien entre l'équipe technique et l'équipe JACF. Encore une fois, je me sentais un peu dépassée.
Et du coup... Pour toi, la JACF, ça a été un lieu...
où j'ai pu commencer de prendre confiance en moi, je crois, où je me suis engagée avec les autres et où j'ai eu toujours conscience que les responsabilités qu'on me donnait, c'était pas... Ils me connaissaient pas assez, mais bon, tant pis pour eux, hein. Donc, mais que je n'avais pas nécessairement la compétence. Donc, j'ai toujours cherché, après, à me former dans la mesure du possible ou dans la mesure de ce qui se présentait pour ça.
Ouais, parce que tu ne te sentais pas forcément légitime par rapport
Voilà, exact.
D'accord. Et mais du coup, après, voilà, le collectif faisait que...
Il y avait des équipes, il y avait du monde autour, il y avait des aumôniers, à l'époque, il y avait des aumôniers, n'est-ce pas? Et donc, il y avait un soutien.
Et la place du coup de la religion dans la JSF, t'as souvenir parce
que là, ben, c'est-à-dire mais... que c'était... Il y avait quand même de la religion parce que les aumôniers étaient là je pense que les autorités ecclésiales de l'époque se chargeaient de leur rappeler qu'ils devaient... il devait faire avancer l'aspect religieux, mais bon, moi j'étais pas, ça me convenait comme c'était, c'est tout quoi. On n'avait pas il n'y avait pas à ce moment-là, c'était pas les enfants de Marie quoi, hein, c'était pas du tout, c'était beaucoup plus libre, on allait à la messe quand même, hein, mais bon. Voilà.
Et du coup, ton rapport à la religion, il a évolué
Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il n'existe plus.
D'accord. Et ça s'est fait comment, ça?
Hein? Ça s'est fait petit à petit, hein.
Ouais.
Puis avec toutes les... C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on reposait les problèmes, qu'on les disséquait, on commençait de prendre un peu de distance, et puis on l'a prise si fort que maintenant, je te dis, je ne vais plus à la... Je ne participe, j'ai plus de relation.
Et tu te souviens à ce moment-là des débats sur les femmes dans l'exploitation, justement, par exemple, aussi dans le rapport à l'investissement, la modernisation, etc.
Je suis loin de me rappeler de tout, mais c'est vrai que c'était l'objet de ma responsabilité, un peu, c'était, puisque j'avais été retenue pour m'occuper de l'aspect professionnel des filles sur les exploitations, où on commençait de dire aux jeunes filles, mais écoutez, vous pouvez faire des petits élevages, vous pouvez également avoir des responsabilités et puis faire les... Là, je me rappelle que j'avais voulu faire la comptabilité, je m'étais fait ramasser chez moi. Je n'avais pas à mettre mon nez là-dedans, n'est-ce pas? Mais on parlait aussi de la responsabilité, qu'on pouvait prendre des responsabilités pour suivre les aspects comptabilité sur une exploitation.
Oui, mais ça se faisait beaucoup quand même qu'il y ait des femmes qui s'occupent justement de la comptabilité des exploitations, non?
Je crois que ça a été plus tard, ça. Hein. Plus tard. Moi, quand j'avais 18-20 ans, on en parlait, mais je sais que ma mère n'a pas du tout apprécié que je me mette à faire des trucs comme ça. D'ailleurs, je n'ai pas été très loin hein, sur l'exploitation. J'avais acheté un cahier, mais c'est tout ce que j'ai fait, je pense...
L'objet de ton implication, c'était de rendre compte de l'aspect professionnel rôle qu'avaient les femmes dans l'exploitation.
Voilà.
C'est-à-dire que ça ne relevait pas que du domestique. C'était un peu ça l'idée?
Ah, oui, absolument. Non, il y avait pas de on s'occupait pas du tout des problèmes domestiques. C'était l'engagement sur l'exploitation, c'est-à-dire comment on pouvait faire. On pouvait avoir un élevage, etc. C'était, à l'époque, je me rappelle bien que c'était le thème qui était un peu abordé quand on allait dans les réunions.
Mmh. Et aussi, il y avait justement, parce qu'il me semble qu'il y avait aussi tout un débat justement sur l'enjeu de... Parce que du coup, les femmes s'occupaient beaucoup des poules, si je ne me trompe pas.
Voilà, oui. Mais c'est-à-dire que ça dépend des régions, je crois. Mais dans la région où j'étais, c'est-à-dire le sud-ouest, l'élevage était un aspect important et représentait en plus... je pense que ça, on ne l'avait pas analysé à l'époque, mais représentait le comment dire, c'était pour les femmes la possibilité de garder leur autonomie financière sur l'exploitation. Elle était, en général, les agriculteurs ne venaient pas leur restreindre le grain ou ce qu'elles avaient besoin pour élever la volaille, parce que ça faisait il y avait des élevages, mais c'était surtout les dindons, les oies, le foie gras. C'était des produits de luxe un peu qui amenaient quand même un côté financier intéressant sur une exploitation.
Et il me semble que le Centre des jeunes agriculteurs, c'est une des premières organisations à avoir imposé...
Oui, ils ont imposé la présence des femmes dans les instances départementales. Au niveau département, même
au milieu des années 50, non, quelque chose comme ça.
Oui,
ou plus tard,
un peu entre 50 et 60, je sais pas exactement quelle était la date, mais oui, ils avaient, c'était les premiers effectivement à exiger qu'il y ait et d'ailleurs ils avaient adhéré à la FNSEA, donc quand on était au centre des jeunes agriculteurs, on avait des liens qui se faisaient avec les FNSEA. Et donc, en tant que femme, on était... Alors, on nous a facilement collé à la presse et puis... quoi d'autre, je ne sais plus. Tu vois, la presse, souvent. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait d'autre? Je ne sais plus.
Ah, tu veux dire qu'il y avait une répartition
ouais,
genre
ouais, ouais,
du
ouais.
travail militant.
Voilà, oui.
C'est-à-dire que les femmes, elles faisaient la presse et certaines tâches.
Voilà, ouais.
Et du coup, toi, t'as tout de suite eu des positions, enfin, ou rapidement eu des positions de direction au centre donc des jeunes agriculteurs.
Direction, pas vraiment. La presse, c'était vraiment la dernière roue de la charrette. Hein,
ah, sur bon, d'accord.
les garçons avaient les côtés économiques et nous, il y avait l'enfance, la presse, etc.
Ouais, bien sûr.
Oui.
Mais du coup, cette position des femmes, c'était pas la parité, mais ces quotas, on va
oui,
dire,
oui.
C'était pour en même temps, enfin, c'était aussi avec des rôles attribués aux femmes qui faisaient.
Pas automatiquement, hein, ça dépendait des équipes,
ouais.
du positionnement de chacun. Hein.
D'accord. Et du coup, donc ça, c'est dans les années 60 à peu près.
Oui.
Ok. Et du coup arrive, donc j'imagine que tu t'attends à cette question, mais 68, enfin...
Oui, oui.
Et à quel moment est-ce que tu as des enfants, en fait? C'est un peu avant, un peu
ah,
après
oui.
J'ai
commencé en 60, 60, ah. 61, 63 et 66.
D'accord.
Voilà.
Bon, et alors ça se passe comment? Donc t'es au centre des jeunes agriculteurs et en même temps... tu t'occupes de ton exploitation aussi tu
oui, prends... oui, 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 mais alors... jusqu'à une certaine période, ça s'est arrêté. Quand on a fait un élevage avicole, on avait un poulailler, et la construction du poulailler s'est faite en 1969.
D'accord.
Et c'est là que j'ai arrêté d'être au CDJA, d'avoir des responsabilités. Et je suis c'est moi qui ai eu la responsabilité de faire enrouler le poulailler, recevoir les poussins, nettoyer, faire les désinfections, etc.
D'accord. Et donc, dans les années 60, tu n'as pas encore vraiment d'exploitation. D'accord.
Non, ce n'est pas encore le stade. C'est en 69 que j'ai
d'accord.
été.
D'accord. Et tu vis où dans les années 60, parce que tu déménages en Loire-Atlantique?
En Loire-Atlantique, à Théier, la commune de Bernard. On avait acheté une maison à l'époque, qui était à 1 kilomètre de l'exploitation.
Et on était en
GAEC, enfin oui, c'était GAEC, je pense, avec le frère de Bernard.
D'accord. Mais tu déménages quand, du coup? À peu près.
Quand je me suis mariée, en 59.
En 59, d'accord. Et donc ensuite, donc tu déménages et tes enfants, tu les as en Loire-Atlantique.
Voilà.
D'accord, ok. Et donc du coup, sur 68, tu te souviens un peu comment ça se passe
Il y avait des conférences. J'avais été à la fac, on avait suivi des conférences et des choses comme ça. À l'époque.
Oui, et puis en 68, enfin bon, tu disais aussi combien il y avait le lien avec le mouvement ouvrier,
oui.
Et que vous apportiez de la bouffe.
Oui, oui, oui.
Sur
oui.
les piquets de grève.
Oui, oui, on a,
ça,
c'est vrai.
C'est bien que tu puisses ouais. le dire, peut-être, si
oui.
c'est possible.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Oui, c'est-à-dire que les surplus agricoles, il y en a toujours, tu sais, des choses qui sont... Alors, on a amené ça aux grévistes de Nantes. On l'a fait pendant, je ne sais pas, un an ou deux, non, moins que ça, je pense. Le temps des grèves, quoi. Après, on a... c'était plus possible.
Non, mais parce que ce lien entre le mouvement ouvrier et le mouvement paysan,
oui,
il est quand même enraciné là.
Oui, oui, absolument.
Bon, voilà, parce que
et puis Bernard
aussi, est, au niveau de ce que disait Michel aussi, par rapport aux cheminots,
oui.
Comment ils étaient organisés, comment ils transportaient, si tu veux, avec les trains qu'ils avaient remis en marche.
Oui, oui.
Et c'était aussi tout ça, enfin, je veux dire,
oui.
Il y avait toute cette solidarité
oui,
qui s'était organisée,
oui, 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 c'est vrai.
Entre le monde paysan et le monde ouvrier, quoi, je pense,
oui.
Je pense que ça, ça a été quelque chose de très fort, quand même.
Oui, mais...
Parce que vous avez fait, quoi.
Oui, 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 bien sûr. Bernard avait, il tenait beaucoup à la relation ouvrier-paysan, depuis longtemps. Donc, oui, c'est vrai, mais...
Que tu partes à l'âge de 45 ans, que tu quittes ta ferme, la terre et les champs, le jugement à trancher en la terre que t'as louée, en fin de bail très régulier, tu n'es qu'un petit fermier, le cumulat peut tout oser. La loi est de son côté.
Dans un entretien pour le numéro 7 de la revue Utopique, la revue de Solidaires, parue en 2018, Marie-Paul Lambert revient sur son implication dans le mouvement de mai-juin 1968. En 1968, nous avons 4 enfants, entre 8 ans et 27 mois. Nous sommes associés avec un frère de Bernard sur une exploitation de 37 hectares spécialisée en production laitière. J'ai arrêté la traite quotidienne à la naissance du 4e enfant en 1966. J'ai été élue cette même année au bureau du CDJIA de Loire-Atlantique où j'étais en charge de la presse et de l'enseignement. Responsable des questions enseignement dans le bureau départemental du Centre départemental des jeunes agriculteurs, le CDJIA, et ayant travaillé dans l'équipe sur les problèmes de cartes scolaires, j'ai participé à des débats à la fac sur le sujet pendant le mois de mai. Je me retrouve dans un amphi. Pour la première fois, je mettais les pieds à la fac. Quelle ambiance ! L'amphi était comble. J'avais l'impression qu'avec les étudiants et les étudiantes, nous marchions dans la même direction. À la maison, il y avait beaucoup d'animation. Il y avait souvent des réunions syndicales dans la salle à manger. On discutait des discours de Bernard. Bernard était souvent absent. J'essayais de pallier, mais avec une exploitation de 27 vaches laitières, c'était parfois compliqué. Pour une femme, paysanne, cela ne va pas de soi. Le plus souvent, nous sommes là pour pallier les absences du militant sur la ferme. Quand elle s'engage, c'est le plus souvent avec l'accord tacite ou explicite du mari et en s'arrangeant pour que les absences perturbent le moins possible l'ordre des choses et la marche de la maison. En ce qui me concerne, il fallait d'abord avoir envoyé les enfants à l'école, trouvé quelqu'une pour garder le petit dernier, prévu le repas si nécessaire et être de retour le soir pas trop tard pour les enfants. Les réunions étaient le plus souvent à Nantes, donc à une cinquantaine de kilomètres de la ferme. Il fallait trouver un moyen de transport. J'avais la chance d'avoir des voisins pas trop loin, eux aussi militants, qui pouvaient passer chez moi me prendre en voiture sans avoir à faire un trop grand détour. Cela intriguait fortement les gens et appelait des commentaires pas toujours bienveillants. Partir souvent de sa maison avec d'autres hommes que son mari, ça ne pouvait être que des histoires louches. Sans la complicité du mari, c'était des scènes de jalousie assurées. Ensuite, on ne peut pas être au four et au moulin. Partir une journée pour militer, c'est du linge pas repassé, du ménage pas fait, c'est-à-dire déroger aux critères de la bonne maîtresse de maison tels qu'ils étaient vus par les gens de la commune. J'avais, si je peux dire, la chance de ne pas être originaire de la commune où je vivais. Donc les copines d'école ne venaient pas à la maison me seriner tout ce qui pouvait se colporter sur mon compte. Cela n'empêchait pas les langues de marché, même si je n'en étais pas toujours informée. J'ai su par exemple qu'on a dit qu'au printemps 1968, j'avais arrêté des camions laitiers vers Beaupréau, assez loin pour que personne ne puisse vérifier cette rumeur, inexacte, mais qui contribuait à faire de moi une femme qui ne tenait pas sa place en menant des actions comme les hommes.
Et moi, j'avais lu sur ton parcours que dans ton village, c'était pas super bien perçu que...
Ah non. Non, non, absolument pas, non, c'est sûr.
Est-ce que tu peux me raconter un peu ça?
C'était pas... C'est quelque chose que tu ne... Il n'y a pas de fait précis, si tu veux. C'est une ambiance, c'est des réflexions, c'est des choses qui sont toujours... qui sont jamais frontales. Ça vient te fouetter de côté et puis tu te débrouilles avec ça comme tu peux. Mais tu sais ce que ça représente.
Oui. C'est des commentaires sur le fait que tu n'es pas censé t'engager.
Voilà, qu'est-ce que je faisais, j'aurais mieux fait de m'occuper de mes gosses, etc. quoi.
Et du coup, comment tu faisais avec tes enfants à ce moment-là ?
J'avais mes beaux-parents qui étaient à côté, qui, de temps en temps, pouvaient assurer une garde. Il ne fallait pas que ce soit trop souvent. Je pense qu'ils n'auraient pas partagé non plus, mais je pouvais faire ça. J'avais aussi une voisine avec qui on s'entendait très bien, qui faisait des journées de travail comme ça. Donc si j'arrivais à avoir assez d'argent pour payer son temps, je pouvais prendre quelqu'un pour m'aider à ce moment-là, pour venir une journée ou faire du ménage ou faire des choses que je n'avais pas pu faire parce que j'étais partie.
D'accord. Et du coup, dans les années 70, tu continues donc de
t'impliquer. Ben, oui,
est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça parce que...
70, qu'est-ce que...
Par exemple, est-ce que tu t'impliques dans la guerre du lait ?
Mais c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y avait Bernard qui était là. Et que Bernard, il suivait un certain nombre de choses. Donc quand c'est lui qui suivait, je le suivais, mais je ne le suivais pas directement souvent. Hein. C'était souvent lui qui le suivait. Parce que à partir du moment où j'ai été complètement impliquée dans l'élevage avicole, j'étais là et c'est moi qui avais la responsabilité de l'élevage avicole. Donc on ne pouvait pas lâcher le truc comme ça parce que il y avait des alarmes. Si ça se déclenchait, il fallait être là pour l'arrêter et voir quel était le problème qui se manifestait. Donc, je suivais, mais je n'étais pas directement engagée dans l'opération, voilà.
Et du coup, ça vous en discutiez, par exemple, ensemble?
Bien sûr, oui, c'était l'objet des discussions. Et Bernard me disait ce qui se passait, et puis on... Mais moi, si je pouvais avoir... quelque chose, c'était peut-être s'il y avait le journal du syndicat, je pouvais être amenée à faire peut-être un papier, mais c'est un peu de cet ordre-là, c'est tout que j'ai pu faire à ce moment-là, en raison du travail que j'avais sur l'exploitation.
Et t'aurais aimé faire plus ou...
Mais j'étais,
posé la question parce que c'était comme ça
et... C'était comme ça, et puis je m'étais engagée avec l'élevage avicole, il fallait le pousser, hein. Et puis il n'y avait pas d'autre solution sur l'exploitation pour s'en sortir, parce qu'il y avait une production laitière, mais il y avait des problèmes au niveau de la production laitière, donc bon, il fallait trouver de quoi faire tourner la boutique. Hein.
Bien sûr. Et puis aussi, du coup, 4 enfants, si je me trompe.
4, oui. Ouais. Ça commence d'occuper, oui.
C'est ça. Et donc, du coup, après, tu t'es impliqué aussi un peu dans les paysans travailleurs et toutes les recompositions qu'il y a pu y avoir aussi dans les années 70.
Ben oui, mais c'est toujours pareil, j'ai toujours suivi, animé directement les choses, parce que je n'étais pas directement...
Et dans l'organisation des femmes, qui s'est fait aussi en interne, tu étais un peu impliquée peut-être.
Oui, bien sûr, j'ai suivi, et j'ai surtout que j'avais trouvé des nanas qui pouvaient être activement là pour compléter ce que je pouvais faire. Il y avait Marie-Paul Méchineau de Loire-Atlantique, voilà, donc je savais que je n'avais pas besoin de m'inquiéter, elle était là, donc voilà, c'était plus une... Je travaillais plus par personne interposée, quoi, si on veut dire, là, à ce moment-là. Parce que je ne pouvais pas, j'avais un engagement, je ne pouvais pas la lâcher, c'était pas possible, ni pour l'exploitation, ni pour, par rapport au contrat qu'on avait pu signer, quoi.
Et du coup, tu es allée au Larzac ou t'as pas pu
Oui.
Aller...
Oui, oui, je suis allée au Larzac et les enfants étaient avec nous. Ils en ont des souvenirs merveilleux.
Ah, super.
Ah oui, oui. Ils sont tous, ils ont tous gardé un très bon souvenir du Larzac. Ils avaient été, d'ailleurs, ils n'étaient pas avec nous. Enfin, ils étaient avec nous, mais une fois sur le terrain, ils allaient avec les copains, avec les, ils avaient fait leur circuit à eux et ils n'avaient pas besoin de moi. Hein.
D'accord. Mm. Et du coup, ils avaient, ils connaissaient aussi les enfants, d'autres enfants.
Ben, ils ont fait connaissance, en tout cas, s'ils les connaissaient pas, parce que ils connaissaient les copains qui passaient chez nous. Donc, et puis je les avais amenés sur à l'endroit où il y avait ceux qui s'occupaient de faire de que ce soit les sandwichs ou autre chose, et puis ils se sont débrouillés après, quoi. Ils ont mené leur vie.
Et qu'est-ce que tu as comme souvenir, toi, du Larzac?
Ah ben c'était formidable, c'était, quand tu en as, le souvenir, le premier souvenir qui reste, sans doute le plus marquant, c'est le soir quand on a vu toutes les voitures qui montaient, et depuis le haut du Larzac, on voyait tout le défilé des phares qui c'était fou, hein.
C'était fabuleux.
Ah oui, ah oui, c'est ça qui était le plus...
Et puis il va briser. Un pays qui veut vivre, c'est une affirmation. C'est quelque chose qu'on peut dire au Larzac, un pays qui veut vivre. Vous vous parlez d'un pays qui veut vivre. Vous vous parlez d'un pays qui mourit. La terra la coneixetes, la vostra, amics, és la teva, no? Vinyer un. La terra la coneixetes, la vostra, amics, és la teva, no? Vinyer un. Tu me dices, ma mare, on vas viure, mon fill? Tu me dices, ma mare, n'hi ha tant que som partits. I marxaria el vent, e la comina de Narbono, e l'ús. Quand tu as...
Et je pense qu'il faudrait quand même que tu dises que par rapport aux paysans travailleurs et tout ça, je veux dire, tu as favorisé quand même. Enfin, je veux dire, tu as accompagné Bernard.
Oui.
Je veux dire, tu as créé... je veux dire, vous partagiez ce projet.
Oui, on partageait tout.
comment tu partageais avec Bernard?
Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça qui me paraît le plus important, parce que tu as créé les conditions pour que ça puisse exister, y compris les réunions chez vous, enfin, etc., etc., quoi.
Ah oui, il y avait toujours des réunions chez nous qui bon, Bernard me disait, on sera cinq ce soir ou demain. Et un jour, j'en ai eu marre, parce que c'était arrivé toujours au dernier moment. Et puis, je me suis dit, bon, il y a la réunion des copains, je crois que c'était ceux de Paris qui étaient là, je ne sais plus. Je me suis dit, ce soir, il va falloir trouver de quoi bouffer. J'ai mis des faillots à cuire. Et puis, quand il m'a dit, j'ai dit, écoute, ils sont là, vous vous débrouillez. Ils se sont débrouillés, ils n'ont rien demandé, c'est fini.
Oui, et donc du coup, en fait, avec Bernard, il n'y avait pas de tension particulière, puisqu'il y avait une répartition.
Il y avait une répartition.
Et puis,
oui,
confiance,
non seulement il y avait une répartition, mais il poussait tout à fait, il poussait lui aussi pour que je m'engage de toute façon. Donc après, il ne pouvait pas me le reprocher. Hein.
Ouais. Et donc, par exemple, lui, ça pouvait lui arriver d'assumer certaines tâches pour te permettre à toi de t'engager?
Oui, c'est-à-dire que ça s'est fait aussi au long de notre existence. À partir du moment où moi j'ai été engagée, je ne sais plus sur quoi j'étais engagée à ce moment-là, mais c'est lui qui restait à la maison et qui s'occupait des enfants et des poulets. Donc, il a trouvé la chose un peu dure quand même, je crois. Il ne m'a pas dit comme ça, mais je pense que c'était sûr.
Et tu ne te souviens pas sur quoi c'était?
Où c'est que j'étais, moi, je ne sais plus. Je suis partie 4 ans pour le journal. Voilà, c'est ça, je crois. Je suis partie 4 ans pour travailler sur... qu'est-ce que c'était? Vent d'Ouest, je pense. Et donc, je m'occupais de la rédaction et puis il fallait faire les abonnements, il fallait faire tout le travail qui était lié au journal. Et on travaillait à deux ou trois, et j'avais une copine avec qui je m'entendais bien, mais qui on faisait ça. Et donc, pendant ce temps-là, lui, il était revenu sur l'exploitation et c'est lui qui s'occupait des enfants, des poulets. Et de la maison, bien sûr. Bon, quand j'arrivais le week-end, la lessive, c'était souvent mon boulot, mais bon, voilà.
Et quand tu disais je suis partie 4 ans, c'est-à-dire que tu étais allée à Nantes, t'allais où exactement?
J'allais à Paris.
T'allais à Paris. T'allais à Paris toute la semaine.
J'allais à Paris toute la semaine, c'est-à-dire que je partais le lundi soir et je rentrais le vendredi soir.
Dans sa biographie de Bernard Lambert, intitulée « Bernard Lambert, 30 ans de combat paysan » paru aux éditions La Digitale en 1988, Yves Chavagne aborde le rôle joué par Marie-Paul Lambert. En 1975, une autre rentrée d'argent s'avère nécessaire. Marie-Paul doit aller travailler à l'extérieur. Ce n'est pas pour lui déplaire. Elle n'aime guère les vaches. Elle a son compte des traites répétées chaque jour de l'année. Et puis, elle veut aussi affirmer son autonomie face à Bernard. Depuis la députation, elle a dû par la force des choses tenir compte des engagements, des absences de Bernard et de ce fait assurer l'intendance du ménage, la permanence auprès des enfants. En décembre 1975, Marie-Paul devient journaliste à Vent d'Ouest, journal des paysans travailleurs. Le poste est à Paris. Tous les jours, Bernard quittait le travail de la ferme pour aller s'occuper de ses enfants, préparer leur repas du midi et du soir quand ce n'était pas pour aller surveiller la bonne marche du poulailler. Toutes ces tâches, Édouard, le frère de Bernard, les acceptait lorsqu'elles étaient à la charge de Marie-Paul. Les enfants, le ménage, le poulailler, n'est-ce pas le domaine de la femme? Et comme pour beaucoup de paysans, c'était bien la preuve qu'on se trouvait là à la limite du non-travail, un homme se devait, quant à lui, être disponible tout au long de la journée aux travaux de l'exploitation.
On disait après, ben on a chacun notre autonomie, on peut se débrouiller chacun dans le domaine qui est celui de l'autre.
Et comment tu gérais justement le fait, par exemple, de partir pendant 4 ans, toute la semaine, par rapport à tes enfants?
C'est Bernard qui avait la charge, hein. C'est lui qui se débrouillait.
Toi, justement, étant donné notamment... les commérages du village, les injonctions.
Moi, je récupérais la relation avec les gosses et les problèmes qu'il pouvait y avoir quand je revenais le week-end. Donc, c'était le week-end, les problèmes scolaires, les problèmes du quotidien, quoi.
Mais tu vivais bien cette implication militante et en même temps ton équilibre avec Bernard et tes enfants.
Mais j'ai trouvé ça assez, assez super, oui, à l'époque.
T'as un très bon souvenir de ce moment.
Oui.
D'accord.
Même si c'était des fois un peu dur à tirer, hein, quand même, il faut bien reconnaître que c'était pas toujours... facile
à articuler,
hein, toujours, c'est ça le problème. Oui.
Et tout le combat, la mobilisation pour la reconnaissance de la profession d'agricultrice, du coup, tu as pris part dans... Bon, évidemment, c'était de manière un peu sous-jacente dans les années 70.
Ben,
est-ce
oui.
que tu peux me raconter un petit peu aussi... De quelle manière tu y as pris part? Ce que tu as comme...
Je ne sais plus. Moi. Je ne sais plus du tout. Hein. C'est-à-dire que il y avait des équipes, on n'était pas tout seul. Et c'était à travers les équipes que les choses se diffusaient et passaient. Donc, c'est les copines, c'est les copains, c'est bon. Et c'était les discussions qu'on faisait à ce moment-là. C'est dans ce cadre-là, autrement... Je ne sais plus avec précision ceci ou cela, quoi, je ne sais pas.
Tu ne te souviens pas de mobilisation, par exemple, au début des années 80, où vous alliez à Paris, ou ce genre de choses?
Non, je ne me rappelle plus de tout ça.
Non.
ma mémoire a bien souffert dernièrement, donc ah, voilà.
Ouais. Parce que la reconnaissance de la profession d'agricultrice, c'est quand même quelque chose qui a mis du temps à...
Oui, mais ça a été porté beaucoup par Marie-Paul Méchineau, justement, qui a pris le relais après. Donc, et il y en avait d'autres à l'époque aussi, hein. Antoinette Philippot, ça faisait partie des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé.
Et du coup, dans les années 80, tu te souviens un peu de tes implications et par exemple, je ne sais pas moi, de la fondation de la Confédération Paysanne ou...
Ouais, je ne sais plus exactement. Ce qui, dans les trucs pratiques, c'est que on n'avait qu'une voiture. Donc, si Bernard avait un rendez-vous, il fallait que je me débrouille autrement. Et on avait deux copains qui habitaient pas loin de chez moi. Et à ce moment-là, je passais un coup de fil, ils me prenaient en passant.
Ouais. Pour aller, par exemple, à Nantes.
Pour aller à Nantes, aller à une réunion, aller à des manifs ou autre chose.
Et du coup, tu as eu d'autres types d'engagements, par exemple, dans les années 70, que l'engagement paysan, mais je veux dire, sur d'autres causes.
Non, pas trop à ce moment-là. J'avais eu des engagements avec la famille rurale. Au niveau local, on avait fait genre de coopérative, c'était pas une coopérative, je sais plus comment, un groupement, on avait fait de femmes pour acheter une machine à tricoter, pour acheter des choses comme ça.
Et d'accord, ça c'était voilà. Dans les années 60, 70.
Ouais, entre 60 et 70, c'était avant.
Ça c'était en relation avec le mouvement des familles, non?
Famille rurale, oui, la famille rurale, oui.
D'accord.
Oui.
Et du coup, vous organisiez, tellement. Alors comment est-ce que vous faisiez sur ces machines à tricoter? Est-ce que tu peux m'en raconter un petit peu?
Je l'ai prise une fois, Bernard m'a dit, je ne veux plus la voir cette machine.
Pourquoi?
Parce que c'était très énervant, tu avais un point qui partait, tout filait jusqu'en bas, il fallait tout recommencer. Je ne suis pas d'une patience énorme, donc ça m'avait vite épuisé et il avait trouvé que c'était pas valable.
Et donc du coup, vous partagiez cette machine?
Oui, c'est ça. On se la trimballait d'un endroit. On n'avait pas de machine à laver. On avait acheté aussi une machine à laver à plusieurs. Et je trimballais cette machine avec une petite remorque pour aller de l'une à l'autre. Il m'est arrivé de perdre la machine, que ça se décroche et que sur la route, quoi.
Et du coup, ça s'était acheté par...
Par l'association de la famille. Je crois que c'était la famille rurale qui avait pris ça en charge.
Donc, une machine à laver, une machine à tricoter.
Oui.
Et du coup, vous aviez une responsabilité. Enfin, toi, tu avais la responsabilité de faire passer cette machine à laver ou cette machine à tricoter.
Oui, mais c'est-à-dire, on se mettait d'accord. Et puis après, on agissait en fonction de ça.
C'était un planning, quoi.
Oui, voilà.
Et du coup, la machine à tricoter, ça permettait de tricoter des pulls.
De faire des... Oui, pour les enfants, pour la famille. Hein. C'était toujours la famille qui était là-bas, qui était là. Donc, oui, mais je vous dis, je ne l'ai pas usé. Hein.
C'était plus simple pour toi de tricoter des pulls avec des
aiguilles. Non, je l'achetais tout fait.
D'accord. Ouais.
Je n'étais pas une fanade du tricot, ni... Donc, voilà.
Et sur, par exemple, l'engagement féministe dans les années 70, t'as vu ça comment? T'as suivi ça comment?
Ben, on suivait comme on pouvait, et puis... Quand on pouvait participer à des débats ou à des choses qui étaient plus générales, qui ne demandaient pas l'engagement direct, puisqu'il y en avait d'autres, mais j'y allais. Mais voilà, c'était comme ça surtout qu'on faisait.
Et tu te souviens de tensions?
Il y avait des journaux, je lisais le Nouvel Observateur à l'époque.
Ouais. Et tu te souviens de tensions dans les paysans travailleurs, justement, sur ces questions?
Pas spécialement, non.
En termes de répartition des tâches, justement, sur qui fait quoi, Parce que c'est aussi le moment où, voilà, il y a eu l'IP et l'IP au féminin.
Oui.
Et une dénonciation aussi d'une inégale répartition des tâches en contexte de mobilisation et ou en milieu militant.
Oui.
Et je sais que dans Vent d'Ouest, il y a eu aussi des publications justement sur... je sais plus ce que c'était l'histoire, mais sur le fait qu'il n'était pas question que, en gros, les femmes fassent tout le boulot pendant que les hommes lisent leur journal ou un truc comme ça.
Ça faisait l'objet de petites flèches qui se lançaient dans les discussions quand on se retrouvait entre responsables, hein, ça arrivait. Mais je peux pas te donner de choses précises là.
D'accord.
J'ai aucune idée, aucun souvenir.
Et la fondation donc de la Confédération paysanne, tu t'en souviens dans les années 80? Comment ça s'est discuté?
Ben écoute, la première discussion avait eu lieu. Parce qu'on avait organisé, alors dans quel cadre je me rappelle même plus, une fête où tous les copains étaient venus et ça s'était beaucoup discuté à ce moment-là. Mais je ne me rappelle plus, je ne sais plus.
C'était des copains de d'où du coup?
Toute Loire-Atlantique beaucoup.
D'accord.
Ça a été beaucoup sur la Loire-Atlantique que j'ai évolué après.
C'était chez vous, enfin, de ce que tu m'avais dit.
Oui.
Vous aviez pris, je pense, prétexte même d'une fête, vous fêtiez un anniversaire, je ne sais plus. Ils avaient invité pas mal de copains et c'est quand même là, enfin...
Que ça s'est un peu mis en place,
voilà, et que tu as favorisé quand même ce genre, enfin... Tu as aidé à ce que ça puisse...
Ça se fasse, oui, sans doute.
Mais c'est pas bon. Sans doute, c'est que...
Oui,
c'est
oui.
Que, voilà.
Mais tu te souviens pas, par exemple, t'étais pas impliqué dans les échanges aussi au niveau national autour de la création de la Confédération paysanne?
C'est Bernard qui était là. Hein. Ouais. Donc j'avais tous les échos, j'avais tous les conflits, j'en avais connaissance, mais je n'étais pas directement impliqué dedans.
Bernard Lambert meurt accidentellement en 1984. Si elle abandonne l'exploitation, Marie-Paul ne cesse d'être impliquée de différentes façons. Elle revient sur ce point dans un entretien qu'elle accorde à Robert Gildéa à Toulouse en 2008.
Je pense qu'il reste énormément à faire au niveau de la démocratisation au niveau politique.
Oui.
Personnellement, je pense que la société change d'une manière qui n'est pas visible toujours. Moi, j'ai été énormément étonnée quand, après le décès de Bernard, je suis partie pour gagner ma vie. J'ai laissé l'exploitation, il n'était plus question de rester là-dedans. Et quand je suis revenue, c'est la multitude d'initiatives prises par des gens pour résoudre leurs propres problèmes qui m'a complètement stupéfiée. Il y a eu en Loire-Atlantique en 99 un recensement d'ailleurs des initiatives et un forum des initiatives qui avait essayé de mettre en lumière tout ce travail. Et en revenant ici dans le Midi, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que sur le terrain, les AMAP, les marchés, les marchés à la ferme, tout ce qui se fait pour essayer de contourner cette espèce de magma complètement écrasant de l'économie capitaliste et qui ressurgit un peu de partout au niveau d'un tas d'expériences qui sont faites.
C'était le deuxième épisode de Militante. Merci à Marie-Paul pour son accueil et sa confiance, ainsi qu'à son amie Marie-Françoise qui a pu préciser certains éléments d'un parcours riche et vivant. Je remercie également Alain Bernard et Jean-Philippe Martin pour leurs suggestions. Merci pour votre écoute. Vous pouvez réécouter l'épisode sur Spectre et toutes les plateformes de podcast. À bientôt! Spectre.